Chapitre 12. De chair et d'os, le corps humain. Dans ce chapitre, l'anatomie, le cerveau. Quoi de plus familier et en même temps de plus mystérieux et déroutant que notre propre corps? En surface, nous pouvons le voir, le toucher, sentir ses réactions au froid ou au chaud. Mais à l'intérieur, toute une vie bouillonnante nous échappe et nous inquiète au moindre signe inconnu. C'est là toute l'ambiguïté du corps humain, à la fois vêture, des frocs bien connus et souvent volontiers exhibés, objet dans notre société d'un culte de l'apparence et monde des mécaniques secrètes et obscures de l'invisible, de l'incontrôlable. Tout l'enjeu est là, entre le paraître victorieux et les rouages cachés, savoir enfin quelle est la part de l'automate. Puis, bien au-delà des os, des nerfs, des systèmes sanguins, respiratoires, digestifs, il y a le mystère premier, insondable et fascinant du cerveau, siège des facultés, des aptitudes, de l'intelligence sous toutes ses formes et, pour les mystiques et croyants, lieu par excellence de la part immortelle, de l'âme immuable. Et dire que les Égyptiens la localisaient dans le cœur et les Chinois dans l'estomac en tant que souffle, énergie. L'anatomie du corps humain. Le miracle sans cesse renouvelé du corps humain est qu'il fonctionne en permanence quand tout va bien, sans que nous ayons à nous en soucier. Inutile de lui donner l'ordre de respirer, de faire circuler le sang, de digérer. Cette extraordinaire et complexe machine le fait d'elle-même. Et pourtant, bien à l'abri, que d'éléments mobilisés. Il est composé de plus de 60 milliards de cellules, 600 muscles, plus de 200 os, 5 litres de sang. Et dans un centimètre cube de sang, soit une grosse goutte, on trouve environ 11 millions de globules blancs et quelques 5 milliards de globules rouges. Le corps humain est un assemblage de 5 systèmes, chacun aux fonctions bien définies, propres à entretenir la vie et à assurer la défense de l'organisme contre les agressions. Il s'agit des systèmes circulatoires, respiratoires, digestifs, nerveux et musculaire. Le système circulatoire. Maintenir le corps en vie n'est pas chose facile pour les différents systèmes de l'organisme. Au centre de tout, il y a le système circulatoire, chargé de faire circuler le sang. Sa tâche est double. D'une part, véhiculer l'oxygène et les nutriments, aliments transformés par le système digestif, et d'autre part, éliminer les déchets produits par les cellules. Pour ce faire, notre système sanguin compte plus de 100 000 km de long de vaisseaux sanguins. Ce sont des tubes plus ou moins gros, charriant le sang dans tout le corps. Il en existe trois types. Tout d'abord, les artères, de larges vaisseaux transportant le sang oxygéné du cœur. Ce n'est pas le cas de l'artère pulmonaire qui charrie un sang pauvre en oxygène. Les veines sont des vaisseaux sanguins moins larges qui transportent le sang pauvre en oxygène et les déchets vers le cœur. Le dernier type de vaisseaux sanguins sont les capillaires, des vaisseaux minuscules qui irriguent tous les tissus jusqu'aux extrémités.
Un peu de technique. 100%. Liquide vital par excellence, symbole de force et de vitalité, le sang se compose de quatre éléments principaux. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma. Les globules rouges, qui sont 45% du sang, transporte 99% de l'oxygène dans le corps et élimine le dioxyde de carbone. Les globules blancs, ou leucocytes, sont les guerriers protecteurs du sang. Ils assurent la défense immunitaire de l'organisme contre les infections. Les plaquettes, de toutes petites cellules, sont les réparatrices du système sanguin. Elles se regroupent et activent la coagulation en s'agglutinant les unes aux autres. Le plasma est la partie liquide du sang. C'est en lui que baignent les globules rouges, les leucocytes, les plaquettes, mais aussi les nutriments.
Le cœur est un muscle creux. C'est lui qui fait fonctionner par son action l'ensemble du système circulatoire. Il bat plus de 100 000 fois par jour, pompe et rejette 8 000 litres de sang en une seule journée. Il est composé de quatre cavités, les deux oreillettes au-dessus, les deux ventricules au-dessous. Ces quatre cavités forment deux parties qui fonctionnent à leur tour ensemble. Oreillette droite et ventricule droit, oreillette gauche et ventricule gauche. Le cœur agit en quatre temps. D'abord, l'oreillette droite reçoit le sang veineux, c'est-à-dire chargé de dioxyde de carbone apporté par la veine cave. Ensuite, le sang est propulsé dans le ventricule droit qui l'envoie dans les poumons par l'artère pulmonaire où il est régénéré en oxygène. Troisièmement, ce sang frais et riche en oxygène rentre dans l'oreillette gauche par les quatre veines pulmonaires. Enfin, l'oreillette gauche l'envoie dans le ventricule gauche, plus épais en muscles que le droit, car c'est lui qui propulse le sang oxygéné dans tout le corps. Le système respiratoire. Si le système circulatoire charge le sang du transport de l'oxygène, c'est qu'il est vital. Sans apport permanent d'oxygène frais, le corps ne peut se maintenir en vie. C'est le rôle du système respiratoire. Or, si le sang transporte l'oxygène, il ne le fabrique pas. Il se contente d'aller le recueillir dans les poumons. Ces derniers ressemblent à deux grosses éponges composées de plusieurs lobes. Ils sont totalement dépourvus de muscles. Le poumon droit comporte trois lobes et le poumon gauche deux. Les poumons sont un transformateur. L'air capté par la respiration est fait pour l'essentiel d'oxygène. Lorsque nous respirons, ce qui arrive environ 15 fois par minute, l'air descend dans la trachée artère puis dans les bronches, sorte de branches, l'une à droite, l'autre à gauche, chacune reliée à un poumon. Puis l'air poursuit son parcours dans les bronchioles, ramification des bronches, un peu comme les petites branches d'un arbre, et arrive dans de petites alvéoles. C'est la paroi de ces alvéoles que l'oxygène traverse pour passer dans le sang, transporté par les globules rouges. De la même façon, le dioxyde de carbone traverse la paroi des alvéoles et est expulsé au moment de l'expiration. Les poumons ne sont pas spécialisés, chacun reçoit l'oxygène et expulse le gaz carbonique. C'est une adaptation et une chance qui permettent à l'organisme de continuer à fonctionner avec un seul poumon au besoin. Dépourvus de muscles eux-mêmes, les poumons sont mus par les muscles de la cage thoracique pour l'expansion et la compression.
N'oubliez pas, une poitrine célèbre. La redoutable tuberculose pulmonaire s'appelle, jusqu'au XIXe siècle, phtisie pulmonaire ou consomption pulmonaire. Les deux termes renvoient à l'état d'épuisement du malade, qui le laisse squelettique. La phtisie est la première cause de décès dans l'Europe du XIXe siècle. Ces maladies infectieuses, découvertes en 1882 par Robert Koch, qui lui donne son nom, le bacille de Koch. Mais le recul de la tuberculose n'intervient qu'après la Première Guerre mondiale, avec la mise au point d'un vaccin, le BCG. Tout au long du XIXe siècle, les ravages provoqués par la phtisie se doublent de la terreur provoquée par les manifestations de la maladie. À un stade avancé, le malade crache de la matière pulmonaire, du sang. L'aspect spectaculaire de la phtisie frappe les imaginations, d'autant plus qu'elle concerne toutes les tranches d'âge de la population. Les romanciers et auteurs de livrets de théâtre ou d'opéra s'en emparent. Alexandre Dumas, fils, s'inspire de l'histoire véritable de Marie Duplessis pour sa Dame aux Camélias, devenue Traviata dans l'opéra de Giuseppe Verdi. Marie Duplessis, 1847, est une courtisane renommée dans le Paris de la monarchie de Juillet, 1830-1848. Alexandre Dumas fils entretient avec elle une liaison tumultueuse et passionnée entre 1844 et 1845. Quand elle meurt poitrinaire à 23 ans, le 3 février 1847, Dumas la transfigure en Marguerite Gautier, personnage central de son roman « La Dame aux Camélias », paru en 1848. Érigée au rang des amoureuses éternelles, elle repose au cimetière du Père-Lachaise, où sa tombe est fleurie en toute saison par les couples épris.
Le système digestif. Le rôle du système digestif est fondamental. Il assume le passage des aliments aux nutriments puis leur décomposition en éléments chimiques assimilables par l'organisme. Il sépare les glucides que sont les sucres, les lipides que sont les graisses, les protéines, les sels minéraux et les diverses classes d'oligo-éléments. C'est en un mot un laboratoire miniature de chimie organique qui décompose et répartit tous les nutriments qui passent dans le sang et sont utilisés par le corps tout entier. Le parcours digestif comporte quatre étapes décisives. Tout commence avec l'appareil buccal, la bouche. les dents coupent, cisaillent, broient les aliments et les glandes salivaires entament le processus de dégradation chimique. La salive joue son triple rôle. Elle enrobe les aliments pour qu'ils soient plus faciles à avaler, c'est la déglutition. Elle commence la digestion par les enzymes dont elle est composée. Enfin, elle protège l'intérieur de la bouche des bactéries. Un petit clapet, l'épiglotte, ferme la trachée qui conduit aux bronches. Ainsi, la nourriture descend bien dans l'œsophage, un conduit qui, en se contractant, l'amène peu à peu à l'estomac. Si les contractions se font mal, à un rythme inadapté, on ressent une douleur, vite suivie d'une sensation d'étouffement. C'est le moment traditionnel où de bonnes âmes vous donnent des tapes dans le dos. L'estomac est une poche élastique, prévue pour une contenance d'environ 2 litres, mais qui peut se dilater plus encore. C'est le lieu par excellence de la décomposition chimique. Il produit des enzymes supplémentaires, mais surtout libère une petite quantité d'acide chlorhydrique qui accélère la séparation des aliments en fonction de leur nature chimique. Une fois vide, il se rappelle à notre bon souvenir par des contractions. C'est un signal très clair. J'ai faim. L'étape suivante est la plus complexe. De l'estomac sort un liquide, le chyme acide, qui passe dans l'intestin grêle. Long de 6 mètres, celui-ci retient la plus grande partie des nutriments et, à travers ses parois, les fait passer dans le sang. Le reste du chyme acide transite ensuite par le gros intestin avec l'adjonction de bile et sucs digestifs sécrétés par la vésicule biliaire, le pancréas, le foie. La digestion se termine quand le gros intestin ne contient plus que des déchets secs, sans intérêt pour l'organisme. Ces déchets, les fesses, sont tassés dans l'ampoule fécale, puis expulsés par l'anus au moment de la défécation.
Le saviez-vous? Quand le corps parle. Même sans y prêter attention, nous employons tous les jours un grand nombre de locutions familières qui mettent en jeu tout le système digestif. Il fonctionne en permanence, inconscient de l'intérêt soutenu suscité, qui ressurgit au détour de l'inconscient dans notre vocabulaire. Laissez-nous vous en remémorer quelques détours. S'en lécher les babines, qui signifie passer la langue sur les lèvres à l'idée d'un mets délicieux. Avoir l'eau à la bouche, c'est-à-dire être mis en appétit. Se faire de la bile pour s'inquiéter. Avoir la dent dure, qui veut dire critiquer férocement. Avoir l'estomac dans les talons, qui signifie avoir faim. Faire des gorges chaudes, qui signifie se moquer méchamment. Ne pas avoir la langue dans sa poche, qui veut dire parler avec aisance. Manger du bout des lèvres, manger sans appétit. Rire à s'en décrocher les mâchoires, rire de toutes ses forces. Être un sac d'os, être très maigre. Se faire du mauvais sang, s'inquiéter. Avoir les yeux plus gros que le ventre, essayer de trop manger. Ventre affamé n'a pas d'oreille. L'affamé n'écoute rien d'autre que son envie de manger.